Gérard Vespierre, bonjour.
Bonjour à vous.
Vous êtes géopolitologue et créateur du site Le Monde Décrypté. Les États-Unis ont puisé dans leur stock d'armes en Israël pour approvisionner l'Ukraine en obus d'artillerie et rencontrer ainsi une demande croissante d'armes. C'est le New York Times qui le rapporte sur des bases de sources israéliennes et américaines. Alors pour commencer, Gérard Vespierre, avec vous, pouvons-nous revenir rapidement sur les raisons de présence de stock d'armes américaines en Israël ?
Mais écoutez, je pense qu'elles sont nombreuses. Premièrement, cela montre l'implication américaine dans la sécurité d'Israël. Donc là, on est sur les bases de l'alliance militaire entre les deux pays, n'est-ce pas, qui est solide et donc remonte dans le temps. Donc sur quoi cette alliance se base? Bon, qu'elle se base sur, bien sûr, des dispositions de matériel et aussi donc d'armement, de munitions. Et on se trouve donc sur le cas précis qui nous intéresse aujourd'hui, sur effectivement l'existence de munitions américaines en Israël, donc qui sont destinées aussi bien à alimenter de façon très rapide et en volume l'armée israélienne, donc en cas de conflit très régional, potentiellement avec le Liban, potentiellement avec la Syrie. Et puis cela fait partie du dispositif cette fois-ci interrégional des forces armées américaines qui sont présentes sur les quelques bases aériennes en Jordanie, qui sont présentes en Irak, qui sont présentes dans les pays du Golfe. Donc il y a un dispositif régional où des moyens d'intervention sont disséminés et où les stocks d'armes, donc de munitions, d'obus en particulier, puisque l'Ukraine consomme des milliers d'obus par jour. Donc voilà, il y a besoin d'aller chercher des réserves. Donc voilà la logique de la présence de munitions américaines en Israël fait appel à l'existence donc de l'assistance militaire, à l'aide en cas de conflit, et troisièmement, la capacité que les Américains peuvent avoir de tirer sur ces stocks pour leur propre organisation.
N'est-ce pas là un risque que la Russie et ses alliés voient comme une implication plus importante de la part de l'État hébreu dans ce conflit ?
Ah, écoutez, je pense que les stocks sont toujours sous responsabilité juridique et financière américaine. Donc, ce n'est pas, n'est-ce pas, des armes d'une firme israélienne que l'État d'Israël serait en train de livrer à l'Ukraine. Il s'agit donc d'armes américaines et que les Américains vont acheminer avec leur propre système logistique. Donc je pense qu'il n'y a pas de risque à part la communication et les mots. Et bon, on sait que la Russie est très prompte à brouiller les cartes dans les mots et la communication et amplifier les problèmes, mais dans la réalité à la fois politique, diplomatique et industrielle, il n'y a pas vraiment d'implication d'Israël dans cette situation.
Alors on le sait, les tensions dans la région sont continues. Israël n'est-il pas affaibli avec ses stocks d'armes qui sont sortis de son territoire ?
Alors, en parlant de stock d'armes, je crois qu'il faut être très précis. Je pense qu'il s'agit avant tout de stock, n'est-ce pas, de munitions pour l'artillerie. Donc, ce sont des obus, des milliers d'obus dont les Américains ont besoin pour alimenter les howitzers en Ukraine. Donc, pour le moment, il n'y a pas de tension particulière impliquant donc des tirs d'artillerie en volume et dans la durée entre Israël et aucun de ses voisins. Troisièmement, si on regarde le potentiel risque de conflit avec l'Iran, il est bien évident qu'il n'y a pas de proximité de tir de canon entre Israël et l'Iran. Les risques sont des risques de missiles ou de frappes, effectivement, à partir de la Syrie et du Liban dont on vient de parler. Donc là, on revient au cas numéro un, mais pas directement avec l'Iran, mais par l'intermédiaire du Hezbollah et des Iraniens présents potentiellement en Syrie. Donc, je ne crois pas qu'il y ait de risque pour Israël, car on sait très bien qu'en cas de durcissement soudain de la situation en Israël même, vis-à-vis donc des voisins, à ce moment-là, les États-Unis sont à même d'assurer un retour des stocks à leur niveau initial en puisant eux-mêmes dans leurs propres réserves.
Si je comprends bien, sur le territoire israélien, ce sont des stocks qui peuvent servir, alors que sur le front ukrainien, c'est des stocks qui vont servir.
Absolument. Donc voilà, il s'agit pour les États-Unis de gérer un degré de crise et un degré d'urgence. Actuellement, il n'y a pas de crise autour d'Israël à ce niveau d'implication d'artillerie en nombre. Par contre, il y a effectivement, hélas, tous les jours des milliers de buts utilisés par l'Ukraine. Donc il y a voilà effectivement une priorité, une gestion de priorité, de proximité aussi. Bien évident que les stocks en Israël sont plus proches que les stocks à partir de l'Oklahoma ou de Californie.
Est-ce inquiétant que les États-Unis doivent se servir dans leurs stocks à l'étranger et donc qu'ils n'arrivent plus à suivre la cadence de production ?
Inquiétant, bon, le mot était peut-être un peu fort, c'est-à-dire que personne n'était à même de prévoir cette situation, même si effectivement les États-Unis et l'Angleterre nous ont alerté très tôt sur la probabilité d'un conflit et de l'entrée donc de troupes russes en Ukraine. Personne n'avait imaginé, et je pense les Américains également, que ce conflit serait actuellement dans son 11e mois. Bon, donc c'est la durée qui crée le problème, et ça, la durée, eh bien, il n'y avait que le déroulement des combats qui pouvait en fixer la trame. La durée, effectivement, pose des difficultés d'approvisionnement. Donc, les États-Unis ont relancé leur chaîne de production industriels, mais font appel à des stocks qui sont donc disséminés. Je crois savoir aussi qu'ils ont fait appel à des stocks qu'ils avaient en Corée du Sud, n'est-ce pas ? Donc on voit que les lignes d'affrontement possibles ou de conflits possibles coréen et puis Moyen-Orient, eh bien, on fait appel à des stocks qui étaient là sur des zones effectivement de tension ou de haute tension potentiel, donc il y avait des stocks disponibles qui ont été ou qui sont en train d'être rapatriés vers l'Ukraine.
Selon le secrétaire général adjoint de l'OTAN, Mircea Geoana, Vladimir Poutine se prépare à une longue guerre en augmentant la production d'armes et en acquérant des équipements supplémentaires. L'effort de guerre de l'Occident doit-il s'intensifier ?
Mais il s'intensifie. On vient de parler effectivement de livraison d'armes à partir de stocks donc qui sont pas dans les zones de combat impliquées, Israël. Deuxièmement, à la fin de cette semaine, il y a le groupe donc de défense de l'Ukraine qui se réunit à Ramstein, qui est proche de 50 pays, donc l'OTAN ne fait que 30 pays. Il y a donc un certain nombre de pays, la Géorgie, la Moldavie, l'Australie, et tu savais, des pays qui sont en dehors du champ de préoccupation du conflit, qui participent à l'aide de l'Ukraine. Donc il y a une mobilisation, effectivement, des démocraties, des systèmes libéraux pour faire face à ce conflit, et donc tout le monde a besoin de soit tirer sur ses stocks, soit effectivement relancer des chaînes de fabrication. je crois qu'il faut être très prudent par rapport à la communication russe. Quand on entend parler d'économie de guerre en Russie, elle est déjà en économie de guerre depuis des dizaines d'années. Donc priorité absolue, et on voit avec les armes hypersoniques, avec des super armes nucléaires, des torpilles super destructrices à effet de tsunami, etc., etc. Donc voilà, la Russie est structurellement puisque les forces de sécurité sont au pouvoir, n'est-ce pas? Donc elles se servent, elles ont un poids important dans le budget. Donc maintenant, de faire produire plus à l'appareil industriel militaire russe, cela me semble compliqué dans la mesure où des armes modernes font appel à des technologies que les Russes ne maîtrisent pas directement, en particulier dans le domaine électronique.
Gérard Vespierre, je rappelle que vous êtes géopolitologue et créateur du site Le Monde Décrypté. Merci d'avoir répondu aux questions de Radio Judaïka.
Merci à vous et bonne fin de journée.